Génial. Mais en tout cas, en deux mots, Nextdoor est un projet entrepreneurial qui est né à la base de Bulle Immobilier. Et en fait, on fait des espaces de vie au travail, comme vous le constatez, avec des espaces de coworking, des bureaux dédiés et une plateforme communautaire qui vise à ce que les résidents puissent communiquer entre eux et avoir des offres qui puissent leur être utiles dans la vie de tous les jours. Voilà, on essaie de simplifier la vie de nos résidents au mieux. Et dans ces offres, il y a des offres telles que cela qui sont en fait les événements qu'on organise pour présenter tant nos résidents, qui là en l'occurrence sont des auteurs pour ce soir, que des événements business ou inspirants qui visent vraiment à créer une émulsion intellectuelle autre que de travailler sur chacun ses propres projets. Voilà, donc ça c'était le petit mot pour Nextdoor et vous présenter Nextdoor. Et puis pour la plupart de nos événements, on a des événements que vous pourrez retrouver sur notre site internet nextdoor.fr. Donc voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est Frédéric a déjà parlé, mais du coup, je voulais quand même que nos auteurs ici présents puissent se présenter et puissent un peu expliquer brièvement leur parcours et ce qui les a amenés à écrire ce livre, et donc savoir qui ils sont, tout simplement. Valérie, à toi l'honneur.
Bonjour à tous, je suis Valérie Marc, et en fait, je suis auteure d'Uno, c'est le troisième ouvrage en fait, que je publie chez Uno, toujours sur les médias sociaux. Le premier c'était... Non, j'adore ça en fait, il y a une petite dose de masochisme hein, quand même dans l'écriture, on va dire les choses, mais une fois que c'est sorti, ça fait vraiment très plaisir. Et donc du coup, le premier était un ouvrage généraliste en fait pour établir sa stratégie médias sociaux, le deuxième centré sur LinkedIn et Twitter, et le troisième, je me fais connaître grâce aux médias sociaux visuels. Donc on va retrouver des informations sur et vraiment des conseils pratiques en fait sur l'usage d'Instagram, Pinterest, Snapchat et YouTube pour se faire connaître, mais également pour gagner en productivité. Et moi je fais de la formation de conseils en fait en médias sociaux.
Génial. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je m'appelle Stéphane Truffem, je suis un vieux de la vieille du digital, alors je ne sais pas si j'ai commencé avant Frédéric, mais ça doit être à peu près équivalent. Donc j'ai commencé aux alentours de 97 par un bouquin, c'est un annuaire des meilleurs sites internet pour l'entreprise, donc une sorte de Yahoo B2B print qui avait bien fonctionné, qui a lancé ma carrière. Donc j'ai commencé à faire du conseil autour d'aspects de contact marketing, même si ça ne s'appelait pas encore comme ça. Mais dans tous les cas, c'était effectivement le canal qui m'intéressait sur le digital. Et puis l'activité a rapidement grossi, donc j'étais amené à co-fonder une agence digitale en juin 2000, très précisément, donc que j'ai co-dirigé pendant 15 ans. Donc c'était un pure player. On accompagnait essentiellement des grosses structures B2B, donc des acteurs comme Saint-Gobain, comme Camé, et comme Total, enfin bien d'autres. Et donc agence que j'ai revendue il y a environ 3 ans, et puis depuis je suis consultant, auteur, donc j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de co-rédiger avec Philippe la boîte à outils du marketing digital. Et puis j'ai également écrit l'inbound marketing aux éditions d'Uno toujours. Voilà, voilà.
Philippe, allez, je continue. Bonsoir à tous, je m'appelle Philippe Gasto, je suis consultant en marketing digital et en effet j'ai accompagné Stéphane aussi avec beaucoup de plaisir pour écrire le bouquin chez Uno, la boîte à outils de marketing digital, donc c'est 60 fiches pratiques qui balayent tous les outils, les leviers du web marketing et du marketing digital. Et au préalable, j'étais journaliste, après j'étais dans la pub, et maintenant j'accompagne les entreprises à être visibles sur le net et à surtout générer des leads, des contacts qualifiés. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Fred.
Bonjour à tous, bonjour à la foule en délire. Je suis Frédéric Canavette. Tu es plus ancien que moi au niveau marketing, puisque j'ai commencé dans les années 2000 uniquement avec les start-up web. Et donc, je montais un blog en 2006, et ça fait donc 12 ans que je blogue, sur un blog qui surfe un peu sur la notoriété, qui s'appelle conseilmarketing.fr ou .com. Tu fais pas 10 000 visiteurs par jour. En même temps, je suis product manager. Comme je disais souvent à Philippe, je suis un peu comme Superman. Le jour, en fait, j'ai un vrai boulot. Et le soir, en fait, j'anime pendant une heure ou deux mon blog et je m'intéresse tout ce business-là régulièrement. Et j'ai aussi écrit j'ai qu'un seul bras actuellement, accident de trottinette. Et donc, en fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Growth Hacking, parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, puisqu'en fait, moi, pendant des années, comme je n'avais pas beaucoup de temps pour le faire, et ben, tout simplement, je faisais ce qu'on appelle l'efficacité maximale, c'est-à-dire que c'est essayer d'en faire un maximum de choses en un minimum de temps avec un minimum de moyens. Et c'est ce qui était le gros hacking, et donc c'est pour ça que ça m'a fait tilter et que j'ai sorti ce bouquin l'année dernière.
Alors pour commencer, la première petite question est dédiée à Philippe. Par où commencer quand on lance une stratégie digitale?
Alors ça sera sûrement le fil rouge de nos échanges, et n'hésitez surtout pas à interagir, nous poser des questions, nous interrompre s'il le faut. Quand on se lance dans une stratégie digitale, j'ai tendance à m'arrêter sur les besoins et surtout les objectifs. Pourquoi on y va? C'est-à-dire que le digital, c'est très vaste. Hein. Le numérique, c'est le web, donc les réseaux sociaux, c'est Internet. Et pourquoi on y va? C'est-à-dire que parfois, je me retrouve devant une entreprise avec laquelle je peux être amené à l'accompagner, et me dit, écoute Philippe, je voudrais être sur les réseaux sociaux. Très bien, ok. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde y est. Alors, je dis, non, ça, c'est pas un objectif, ça. Ou alors, en B2C, on va me dire, on va envoyer un emailing pour promouvoir le dernier produit que la R&D vient de sortir. D'accord, mais à qui tu vas t'adresser? Donc en fait, si on réfléchit bien, chaque action menée doit répondre à un objectif qu'on va se poser. Alors en marketing, il y en a souvent 4, hein, plutôt 3. On va plutôt se dire qu'on va soit chercher la notoriété, soit chercher à recruter, donc prospecter en vue de générer des leads, ou alors de fidéliser. À partir de là, si on se dit que sur les réseaux sociaux, une entreprise décide d'y être, on va lui dire ok, donc l'objectif que tu cherches, toi, c'est la notoriété. Très bien. Donc on va créer une communauté. On va créer une communauté, ça veut dire quoi? On a un objectif, 200 abonnés à la page LinkedIn en 2 mois, 3 mois, très bien, l'objectif est posé. Comment on fait maintenant pour l'atteindre? Alors là, on va mettre en place plusieurs actions de marketing digital. Ça peut être de la publication de contenu sur la page LinkedIn, ça peut être la participation à des groupes, ça peut être les notifications des membres qu'on va générer en favorisant la recommandation, par exemple. Si on reprend l'exemple de l'emailing en B2C sur la promotion d'un nouveau produit, si l'objectif est de prospecter, eh bien évidemment, on va aller chercher une base de données qualifiée qui ne fait pas partie de son CRM. Vous voyez, là, en fait, on est en train de se dire qu'avant de bâtir une stratégie digitale, on a besoin de réfléchir et de comprendre ce qu'on va aller chercher. Pour dégager ces objectifs, ils dépendent d'un travail en amont, que vous connaissez probablement tous, bien sûr, c'est de faire un diagnostic interne et externe, savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses en interne, et puis à l'externe, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a sur mon marché, quels sont mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font, et à partir de là, on va commencer à tout doucement construire sa propre stratégie digitale. La stratégie digitale, en fait, aujourd'hui, on peut se dire qu'elle évolue, qu'il y a de nouveaux leviers, des nouvelles actions, on entend parler de beaucoup de mots un peu barbares, le growth hacking, Fred en parlera tout à l'heure, mais parmi ceux-là, il y en a un premier que j'ai envie d'aborder, c'est sur l'inbound marketing.
Mais du coup, qu'est-ce que c'est?
Et du coup, qu'est-ce que c'est, Fred, Stéphane?
Alors, très bonne question. L'inbound marketing, ben, tout simplement, c'est l'art d'attirer vos clients vers soi et d'éviter finalement d'opter pour une communication trop intrusive. Donc comment on va faire pour les attirer? Bah, tout simplement en leur délivrant de la valeur. Et là, c'est véritablement le point central qui est absolument, je dirais, capital. C'est finalement comment, quelle valeur je peux délivrer sur les canaux digitaux sans forcément penser commercialement. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est finalement toutes les interactions que je peux produire en dehors de mon tunnel de conversion. Ok, j'ai un tunnel de conversion, il va falloir que je traite d'interactions optimales pour des gens qui sont intéressés par mes offres, mais il faut également... C'est normal ?
Okay.
Donc il faut également... J'ai l'impression que le micro ne marche plus, mais... Bon, peu importe. Il faut également que, aujourd'hui, que j'arrive à délivrer de la valeur auprès de personnes qui n'ont pas forcément en tête d'opter pour mes offres. Hein, donc ça, très souvent, ça va passer par du content marketing, ça va passer aussi par un positionnement, et donc ensuite, on va pouvoir délivrer ce content marketing
notamment à travers les médias sociaux. Donc voilà un peu ce qu'est l'inbound marketing. Au-delà de ça, c'est une méthodologie hein, qui va s'orchestrer en quatre étapes. Alors je crois que le gross hacking, c'est 5. Donc c'est malgré tout des tactiques, des techniques assez proches, assez similaires. Je lui préfère l'inbound marketing parce que je la trouve plus simple. Le gross hacking peut-être aussi, mais là Fred nous donnera sa vision, peut induire un peu que finalement il y aurait des baguettes magiques qui permettraient, grâce à des hacks, de faire exploser son chiffre d'affaires. Or, c'est complètement faux. Donc, je préfère parler d'inbound marketing, voire de gross marketing, plus que de gross hacking. Mais bon, encore une fois, Frédéric va défendre son bouquin et puis sa vision du gross hacking.
Mais avant que Frédéric ne défende sa vision du gross hacking, Valérie parlait de médias sociaux. Et quelle utilité peuvent avoir les médias sociaux visuels pour une entreprise?
Alors, déjà, on va se caler sur une définition. Moi, ce que j'entends par médias sociaux visuels, ce sont d'abord Instagram, Pinterest, Snapchat, et on va rajouter YouTube. Alors, le visuel est de plus en plus important, c'est pour ça qu'on se pose la question. Gardez en tête également qu'Instagram, l'année dernière, est passé en France devant Twitter. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, de plus en plus d'entreprises se posent la question, en fait, de l'utilité d'un Instagram ou de ces autres médias dont on entend parler. Et en fait, quand on se pose la question à quoi servent ces médias, c'est effectivement la bonne question à se poser. Parce qu'on va voir qu'ils peuvent avoir différents objectifs ou différentes utilités. Alors, si on voit les trois principaux usages que l'on peut en faire, on va avoir un premier usage qui est un usage classique, qui est un usage de communication. Donc, oui, je peux me faire connaître grâce à Instagram. Oui, je peux me faire connaître grâce à Pinterest. En fait, vous avez des entreprises qui arrivent à le faire. Hein. Évidemment, YouTube, voire même Snapchat. En fait. Donc ça, c'est le premier point. C'est je peux les utiliser pour me faire connaître ou pour fidéliser mes clients ou pour conquérir de nouveaux clients. Donc, usage de communication assez classique. Le deuxième usage possible, c'est plus un usage de productivité personnelle. Et ça, on va pouvoir le trouver sur un Pinterest ou sur un YouTube. Où, globalement, je vais utiliser Pinterest pour organiser ma veille, pour organiser ma curation, en fait, aussi, pour me trouver du contenu intéressant. Mais simplement, j'ai interviewé, en fait, des consultants qui faisaient des tableaux sur Pinterest, qui étaient des tableaux plus thématiques, dans lesquels ils retrouvaient les articles qu'ils trouvaient intéressants. Et juste par le visuel, ça les aidait, en fait, à juste mémoriser aussi tous ces éléments. Ça, c'est le deuxième type d'usage. Et troisième type d'usage, en fait, c'est projeter une expertise. Et là aussi, l'outil visuel qu'on peut utiliser pour projeter son expertise, ça va être YouTube. Et donc là, on peut totalement se retrouver dans des usages B2B. Donc le point essentiel, quand on commence à s'intéresser aux médias sociaux visuels, c'est de se poser la question de cet objectif. Le deuxième point essentiel, c'est je m'adresse à qui? Parce que globalement, Instagram, c'est super, hein, il y a une grosse audience sur Instagram, beaucoup d'engagement, plus d'engagement sur Instagram que sur Facebook. Mais concrètement, si je vends du matériel pour équiper les personnes handicapées, ça va être compliqué en fait d'avoir un ton visuel adapté pour Instagram. Donc on va là aussi se poser la question si Instagram doit être un média social prioritaire pour nous, est-ce que c'est adapté par rapport à nos produits ou à nos services?
Voilà. Mais alors du coup, on en arrive à comment faire développer la croissance de son entreprise, ou en tout cas la disrupter avec le gross hacking. J'aimerais juste rajouter un petit point. Donc aux États-Unis aujourd'hui, enfin un peu longtemps, on passe du gross hacking au hustler hacking. Donc du coup maintenant, sur quel cours on joue en fait?
En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a parlé tout à l'heure de stratégies qui sont en fait générer de la notoriété, de la visibilité, etc., etc. Le gross hacking, en fait, vient des startups américaines. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix. Soit en fait elles réussissent, soit elles meurent. Et donc en fait, elles sont prêtes à mettre en place des stratégies un petit peu astucieuses, souvent à la limite de la légalité, voire hors de la légalité. Et donc c'est innovate or succeed or die. Donc en fait, elles n'ont pas trop le choix et elles ne sont pas du tout dans une optique, voilà, je crée de la visibilité, je fidélise et tout ça. Je suis vraiment dans une optique, je dois avoir la croissance rapidement et prouver ma traction. Donc le gross hacking, c'est vraiment ça. Sachant qu'il y a en fait deux éléments clés dans le gross hacking. Il y a gross et hacking. Le problème, c'est que tout le monde retient hacking. Or, hacking, en fait, c'est des trucs et astuces qui vont permettre d'aller capter ta croissance beaucoup plus rapidement. Alors, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. À chaque fois, je donne quelques exemples français qui sont assez intéressants. Par exemple, j'ai un de mes amis qui a travaillé chez Keljob pendant un certain temps, le job que vous connaissez. Mais au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pompé les adresses, enfin les annonces d'offres d'emploi de tous les autres sites internet, alors qu'ils n'avaient pas d'autorisation, et ils ont mis sur un site web. Un autre exemple hyper connu que vous connaissez, un certain Xavier Niel, je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, il est un peu dans le business. Donc en fait, le petit Xavier, il a travaillé dans une boîte de téléphonie pendant un certain temps. Puis à un moment donné, il a inventé un petit logiciel qui s'appelle le Turbophone, qui était assez sympa parce qu'en fait, ça permettait d'avoir des petites conversations rapides et puis de décrocher derrière. C'est une espèce de répondeur automatique. Et notre ami Xavier a bénéficié d'un business qui était le 3615 UDA. Et donc il a pompé comme ça la croissance de ce site-là. Et il a tout ramené vers ses sites à lui. C'était ce début de sa richesse. En fait. Il a comme ça capté en fait la croissance. Et souvent un petit peu, c'est ce que font les gens avec le growth hacking. Ils cherchent un leader, un carrefour d'audience, et ils essayent d'aller attraper cette audience-là. On parle aussi d'Airbnb, on parle un peu plus d'un traditionnel. Airbnb qui a commencé en fait un petit peu comme ces deux autres. En fait, ils ont utilisé un petit moteur qui permettait d'aller sur Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, avec un petit message à toutes les personnes qui déposaient une annonce pour louer un appart en disant hey, tu sais que si tu mettais ton annonce sur Airbnb, tu pourrais te faire 500 € par mois, allez vas-y, clique là-dessus. Et donc c'était leur point de départ. Alors bien entendu, le growth hacking, c'est bien au départ, mais après, on garde un peu cette philosophie-là, mais on est obligé de passer sur une philosophie un peu plus classique pour aller sur les canaux traditionnels. Et par exemple, Airbnb, Cashlob, Free, etc., se passer sur du marketing traditionnel. Donc, au début, il y a ça.
Mais du coup, enfin, je t'interromps sur ça. Est-ce que des entreprises qui ont déjà commencé, des entreprises qui sont déjà, j'ai envie de dire, dans le game, ou en tout cas qui sont déjà sur des marchés, est-ce qu'à un moment donné, en termes de pivot, est-ce qu'elles peuvent passer, du growth hacking?
Alors en fait, il faut garder cette philosophie. Free, par exemple, à garder cet esprit growth hacking en essayant un petit peu de faire des trucs disruptifs, en cassant un petit peu le marché, en faisant des choses un petit peu innovantes. Donc quelque part, Free garde cette petite-là. Mais dès qu'on est dans une grosse boîte, en fait, ça devient très compliqué. Il n'y a pas très longtemps, en fait, je suis intervenu chez Orange, dans leur codier, en fait, un petit peu innovation et tout ça. Et c'est vrai que j'aurais dit, on peut faire ci, on peut faire ça. Et ils disaient, mais c'est impossible. Si on fait ça, de toute façon, on sera shooté sur les médias sociaux. Si on fait ça, en fait, par exemple, je leur disais, vous avez du mal à lutter contre d'autres sociétés parce qu'ils peuvent faire appel à des assistants en offshore qui permettent de faire du design, de la vidéo, du machin, etc. Ils disaient, la même vidéo que tu nous as fait, moi, je l'ai montré qu'on peut faire pour 60 €. Ils m'ont dit, mais ce truc-là, ça vaut au moins 10 000 €. Donc en fait, dans une grande entreprise, il y a des nécessités d'avoir de la personnalisation, des process, etc., qui font que c'est très compliqué de faire du growth hacking. Même moi maintenant, je travaille dans une boîte où il y a 85 personnes, et les techniques que j'utilise sont... il y a une bonne partie que je peux utiliser qu'à titre personnel et que je ne peux pas utiliser en fait pour l'entreprise. Alors, bien entendu, là on parle du hacking, ouais. Mais je n'ai pas parlé du growth. Growth, en fait, c'est le tunnel de conversion et c'est... traditionnellement, ce qu'on appelle le tunnel AR, c'est donc l'acquisition, l'activation, etc., etc. Et on va essayer d'optimiser ce tunnel de vente. Et là, en fait, on est dans une optique de croissance durable en essayant en fait, d'optimiser les conversions. Et à chaque fois, on est toujours dans un système un peu contraint, c'est-à-dire qu'on a peu de ressources, on essaie de les optimiser comme possible.
Alors,
il y a Corporate Hacking aussi qui existe, mais c'est un peu différent.
Tu veux parler, on pourra peut-être parler après du corporate hacking, mais du coup là on parlait de succès, Stéphane, comment on se plante au final? Ou comment planter sa stratégie digitale?
Justement, très très bonne question. On se plante tout simplement en se noyant dans les outils. Alors c'est vrai que le marketing digital, et on en est des représentants, hein, puisqu'on a écrit la boîte à outils du marketing digital, c'est vrai que le marketing digital est très très friand, de nouvelles tendances, de nouveaux outils. Alors on parlait il y a quelques temps de social selling, c'est toujours sur la table, mais on a rajouté maintenant l'employé advocacy. On parlait d'inbound marketing, c'est toujours sur la table, c'est très bien. Maintenant, on parle de plus en plus de growth hacking. Donc, on voit que finalement, on peut être pris comme ça dans une sorte de course en avant et se perdre finalement dans l'utilisation d'outils sans véritablement penser, encore une fois, à la valeur que l'on souhaite orchestrer auprès de ses cibles. Et encore une fois, la valeur doit être détachée finalement de son produit. Ok, par définition, le produit est bon, sinon on n'existe pas très 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 longtemps sur un marché qui est de toutes les manières ultra concurrentiel où tout se sait quasi immédiatement. Donc il faut partir du postulat que son offre est bonne, sinon on n'existerait pas. Mais que les clients ne vont pas venir uniquement parce que l'offre est bonne. Ils vont venir parce que vous allez leur proposer quelque chose de valeur qui va justement transcender cette offre-là. Et c'est absolument essentiel de bosser là-dessus et ensuite de bien utiliser les outils pour finalement promouvoir cette offre et lui donner du sens.
Mais alors, Philippe,
Ouais, on parle un peu de content marketing là, non?
Ouais, on peut en parler, mais pour rebondir sur ce que disait Steph justement, ne pas se perdre dans les outils pour bien garder en tête à qui on s'adresse, mais justement les outils sont suffisamment nombreux pour qu'on récupère des informations et qu'on le transforme. En fait, le content marketing, c'est quoi? C'est de publier des contenus à destination de ses cibles. Les contenus, c'est du texte, bien sûr, mais c'est aussi de la vidéo, de l'image, de l'audio, bien sûr. Aujourd'hui, la vidéo, c'est quoi? C'est 80% du trafic sur le web, peut-être un peu moins, je pense, 70, je ne sais plus. Mais donc, pour pas se planter dans sa stratégie marketing, si on a écrit un article de blog, par exemple, moi, j'essaie de tenir le rythme d'un article tous les 10 jours sur mon blog, donc c'est e-strategique.fr, e-strategique.fr, allez-y. Non, voilà, un article sur mon blog, après, ce qui peut être malin, c'est de les compiler dans un livre blanc. Donc, en fait, vos contenus vont être réutilisés, ou alors les lire pour en faire un podcast, ou pourquoi pas également interroger un ami, un collègue, un partenaire, un prospect sur un sujet, une thématique que vous avez déjà traité sur votre site. Donc le content marketing, finalement, c'est utiliser des contenus à destination de ses cibles et en utilisant les supports qui sont à disposition. Et ce qui fait que, comme ça, on ne se perd pas spécialement dans les nombreux outils que Stéphane précise tout à l'heure.
Le content marketing est un super moyen de finalement prouver la valeur dont je parlais hein, tout à l'heure. Donc là, encore une fois, si on ne réfléchit pas à son positionnement, si on ne réfléchit pas à la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter sur son marché, on va faire du content marketing exactement comme ses petits concurrents. Et au final, on rajoute du bruit au bruit. Je pense que Valérie peut en attester, hein, puisqu'elle est pro des médias sociaux. C'est pareil, c'est pas parce que vous allez faire du social selling et embarquer vos commerciaux que finalement vous allez exposer votre chiffre d'affaires. Ça sera toujours mieux si vous ne le faites pas. Mais encore une fois, si les commerciaux ne donnent pas du sens grâce au contenu qu'ils vont publier, les résultats seront très 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 limités. Hein.
Mais du coup, pour essayer de monter, Valérie, ces résultats, quand on a une activité de service aux entreprises, quels sont ceux qui peuvent être utiles et surtout pour quoi faire?
Mais la transition était bonne.
La transition est exceptionnelle. Et donc en fait, mais pour répondre directement à cette question, quand on est en B2B, on revient toujours sur la même thématique, c'est-à-dire que les médias sociaux, de toute façon, sont des outils de communication. Donc en B2B, on va aller en priorité sur les outils de communication qui sont utilisés par notre cible. Donc si je réponds de manière globale, quand on est en B2B, quels sont les médias sociaux prioritaires? Ça va être du LinkedIn et du Twitter, puisque notre cible est sur LinkedIn et sur Twitter. Et en plus, en B2B, très souvent, on a projeté une expertise. C'est pour ça que la discussion en fait, sur le contenu, sur les contacts, est extrêmement importante. C'est que souvent, en B2B, si on ne projette pas une expertise, on va avoir du mal à percer. Et évidemment, il faut trouver une expertise qui soit une expertise qui est la nôtre, mais qui sont importantes également pour notre cible de communication. Donc comprendre la douleur de notre cible va être essentiel en fait, dans ce sens-là. Donc en B2B, médias sociaux, on va se concentrer sur LinkedIn et sur Twitter. Après, ce qui est intéressant quand on descend sur les médias sociaux visuels, c'est de travailler un Pinterest et un YouTube, parce que c'est là qu'on va trouver des contenus intéressants, ou que l'on va pouvoir projeter son expertise. YouTube, j'ai interviewé en fait des gens qui arrivaient à percer, à faire émerger leur expertise grâce à des vidéos YouTube, mais là aussi il y avait une consultante en marketing, mais elle avait commencé par elle n'était pas connue du tout au départ, elle avait commencé par des vidéos, c'est quoi une SWOT. Et globalement pendant 10-15 minutes elle expliquait, et on pouvait être sur du contenu long 10-15 minutes pour expliquer clairement ce qu'était une SWOT, comment elle a travaillé. Ça n'intéresse pas tout le monde, mais en revanche ça l'intéressait. En fait, elle a réussi à émerger grâce à ça. Et par la connaissance des sujets qui intéressaient en fait son audience.
À moins que...
Ouais. Et en B2C, donc les médias sociaux prioritaires, donc Facebook évidemment qui est un carrefour d'audience. Le problème maintenant sur Facebook, c'est que si vous n'êtes pas prêt à payer de la publicité, vous ne réussirez plus à émerger, parce qu'on est vraiment sur le pay-per-play. Donc on va compléter en fait avec de l'Instagram maintenant, puisqu'on arrive à avoir un meilleur taux d'engagement sur Instagram que sur Facebook, à condition de pouvoir engager une ligne éditoriale visuelle. Donc à condition de pouvoir faire des visuels attractifs et d'optimiser tout ce qui est à notre disposition sur Instagram pour émerger, donc de bien travailler la légende, d'être beaucoup dans l'interaction en fait avec les utilisateurs, avec les Instagrammeurs pour pouvoir vraiment, vraiment percer. Et effectivement, alors, on ne s'ennuie jamais dans les médias sociaux, donc il y a des nouveautés en permanence. Et donc depuis une dizaine de jours maintenant, il est possible, alors que Instagram c'était, jusqu'à il y a 10 jours, Instagram c'était un outil de notoriété et image. Donc on pouvait se faire connaître, se faire aimer grâce à sa présence sur Instagram. Il y a 10 jours, on a lancé, a été lancé en France la possibilité en fait sur des photos partagées, de mettre des liens vers des pages produits, en fait, vers des fiches produits. Donc du coup, on peut maintenant avoir une dimension shopping en fait, à Instagram. Alors il y a un certain nombre de conditions à remplir pour y arriver. Mais là, on va enfin pouvoir faire un peu plus de commerce en fait, grâce à Instagram. Alors jusqu'à présent, on était vraiment que sur des objectifs d'image et de notoriété. Là, on va pouvoir faire agir l'audience sur Instagram.
Sur des produits physiques,
tout à fait. Donc concrètement, vous allez le voir. Hein. Quand vous voyez un bouton boutique en fait sur une page, un profil Instagram, vous cliquez dessus, vous allez retrouver en fait des photos qui ont été partagées, sur lesquelles le compte a tagué en fait des produits. Quand je clique sur la photo, je vais avoir le prix des produits. Quand je clique sur le produit, je peux aller sur la fiche produit et acheter. Donc là, on vient de faire un pas de géant en fait dans la vente sur Instagram. Évidemment, avec l'optique, on n'est pas naïf, hein, l'optique de nous forcer en fait par la suite d'acheter de la publicité pour promouvoir ces images, évidemment.
Y a-t-il des questions dans la salle? Mais du coup, moi, j'aurais quand même voulu que tu reviennes sur le corporate hacking.
Mais c'est la question.
Alors, en fait, le corporate hacking, qu'est-ce que c'est tout simplement essayer de mettre un petit peu de growth hacking dans les grandes entreprises. Et souvent, en fait, c'est les grandes boîtes qui ont un petit peu peur, justement, de l'ubérisation et tout ça, et qui se disent, ben, ok, d'accord, il y a des petits jeunes qui sont capables de mettre des outils d'automatisation, d'essayer de penser un petit peu différemment le business. Et donc, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, le corporate hacking, c'est essayer souvent de repérer quelqu'un qui est passionné dans son entreprise, ou quelqu'un, ou un stagiaire, ou même un petit jeune qui débute, et qui est là pour en fait changer un petit peu les habitudes et remettre en question les choses. Parce que vous l'avez dit juste avant, le problème c'est que ça bouge énormément. Même moi qui suis de manière régulière, j'ai un mal fou à voir et à suivre tout ce qui peut se faire. Par exemple là tu vois, un dernier hack, vraiment simple, que j'ai appris il y a 2 jours alors que ça existe depuis des semaines je suis sûr, c'est en fait quand tu fais une vidéo comme là on est en train de faire là, sur Facebook, toi, il n'y a plus de bouton acheter, commander, tout ça. Mais pourtant, tu peux l'avoir gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends ta vidéo ou ton article, ça marche surtout bien pour les vidéos, tu prends ta vidéo, tu fais boost, comme si tu allais le booster pour en fait faire une promo. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça, il va te proposer de mettre un bouton pour commander, pour acheter. Donc tu mets ton lien pour faire commander, acheter, en savoir plus. Puis après, tu vas dans ton Facebook gestionnaire de publicité et tu désactives ta pub, mais le bouton, il reste. Donc en fait, un petit truc comme ça, tu dis, waouh, il faut vraiment le suivre. Et c'est pour ça que moi, souvent, en fait, je suis pas mal de communautés. Il y a Growth Hacking France, growthhacking.fr, je crois, ou growthhacking.fr, et la communauté Growth Hacking francophone qui est vraiment super active sur Facebook. Mais encore une fois, attention, parce qu'en fait, souvent, c'est des gens qui maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants, et parfois, il y a du vol de données, il y a du spam. Il y a plein de choses qui sont totalement illégales et qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il y a plein de gens qui disent « Tiens, je vais aller récupérer des infos sur page jaune. » Or, c'est interdit par les CGV de page jaune, etc. etc. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Et ça bouge beaucoup, mais tout n'est pas forcément illégal.
Est-ce qu'il y a des questions? Je vais te donner le micro pour le... Oh bon, la question peut intéresser les millions de personnes qui nous écoutent.
Pour poursuivre un petit peu sur le growth hacking, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets d'opérations et de typologies de résultats?
Il y a plein d'exemples. Alors un exemple, on parle de LinkedIn, il y a un super outil que je recommande d'utiliser à tout le monde, c'est un outil, alors est-ce que c'est du growth hacking? À voir. En fait, c'est un outil en fait, qui s'appelle LinkedIn Helper, ça coûte $15 par mois. C'est un petit outil super simple qui te permet en fait, de faire ta recherche. Par exemple, je cherche tous les directeurs commerciaux qui sont à Paris. ou tous les directeurs commerciaux qui parlent le français et qui sont aux États-Unis, au Canada par exemple. Donc tu vas les sélectionner et en fait il va te faire une invitation personnalisée. Il va dire bonjour Michel. Et en fait, tu fais, t'as ton message d'invite qui part. Alors bien entendu, il faut mettre de l'humain. Donc, faut pas dire, je vais te faire une promo, je vais te vendre un produit, mais il faut dire, moi par exemple, je fais ça parce que je travaille dans de l'expérience client. Et je vends des logiciels de centre d'appel, des logiciels d'enquête de SAT et tout ça. Et donc, je dis, je cherche les gens qui sont responsables de l'expérience client, responsables de centre d'appel et tout ça. Je dis, bonjour, je suis passionné d'expérience client, ce qui est vrai. Et donc, après, je leur envoie ce premier message. Ensuite, derrière, quand ils acceptent, je peux leur envoyer un deuxième message qui n'est pas personnalisé par contre, mais qui est une signature auto, où je leur dis, télécharge ma BD, parce que j'ai fait une petite BD en offshore, une cinquantaine d'images, c'est la BD de l'expérience client avec 57 conseils pratiques. Et donc, je leur propose d'aller là-dessus et je récupère après leurs coordonnées avec un système où il y a un autre livre blanc, parce qu'il y a la BD, bien sûr, est totalement gratuite, accessible, mais en même temps, il y a un petit livre blanc sur le pilotage de l'expérience client. Et là, forcément, t'espères avoir un peu de trafic là-dessus.
Quel ratio à peu près tu peux obtenir, justement, entre ta cible, ton audience de départ, ta cible de départ à qui tu as envoyé premier mail les quelle proportion devient client
Alors ça, c'est vachement compliqué parce que ça dépend véritablement du produit. Des solutions que je vends, ça vaut à peu près 50 000 à 100 000 euros, voire un peu plus. Donc c'est super compliqué. Je donnerai plutôt un exemple sur un autre truc, c'est les chatbots. Je vais donner un exemple très pratique. Il y avait un web séminaire qui était organisé par un syndicat. Je ne dirais pas lequel parce que après ça, je connais la personne. Il a organisé un séminaire physique avec le thème des chatbots. Coup de bol, moi j'en vends, mais je ne pouvais pas être à ce séminaire-là, puis surtout je ne suis pas intervenant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui est assez sympa, c'est qu'ils utilisaient, je crois, Eventbrite ou un truc comme ça, ou Venium. Et donc, il y avait la liste des participants, sauf qu'il y avait juste leur nom, leur prénom, je crois, leur prénom et leur titre. Et pas le nom de la société. Je crois qu'il y avait le nom, prénom et le titre. Et donc, tout simplement, j'avais deux choix. Soit, j'allais directement me taper à la main le copier-coller des contacts, soit j'utilisais un petit robot pour le faire, mais c'était un peu compliqué parce que les contacts, j'en avais une partie sur mon compte LinkedIn déjà, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait appel à une assistante offshore, mon assistante à moi. Et donc pour 70 euros, je lui ai dit, tu as les 300 participants, je te donne mon compte LinkedIn, tu as les accès, tu vas les inviter, tu vas leur faire un petit message personnalisé alors en disant tel truc. Et donc sur les 300 et quelques, je crois que j'avais déjà une cinquantaine dans ma liste. Il y en a une trentaine que j'ai pas réussi à avoir parce que c'était trop compliqué, c'était des noms trop communs. Donc j'ai dû en toper 150 ou 200, quelque chose comme ça. Et sur ces 150 ou 200, j'ai eu 3 demandes d'information. Et là, on est encore en égo avec un. Mais c'est des dossiers, ça vaut 50 à 100 000 euros, quoi. Je fais pas du volume, c'est vraiment de la valeur à maximum. Après, ça s'adapte à tous les carrefours d'audience. Le growth hacking, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des outils qui sont disponibles partout. Alors, soit tu utilises des outils d'automatisation. Par exemple, il y a un outil qui est très simple, qui s'appelle Octoparse, qui permet de faire pas mal de récupération de fichiers. Mais autrement, si tu tapes growth hacking et le nom d'un outil, et tu trouves un outil, par exemple, on parle d'Instagram là, il y a deux secondes, tu as un outil français qui s'appelle Combi, et qui permet d'aller faire de l'auto-follow, de l'auto-like, du auto-comment, etc., etc. Alors il faut faire très attention, parce que automatiser n'est pas joué. L'automatisation est très mauvaise si on n'est pas de l'humain, si on n'est pas de l'émotion. C'est vraiment important de se dire qu'il ne faut pas faire du volume pour du volume. C'est l'erreur que font la plupart des gens qui commencent avec le growth hacking, ils disent je vais balancer un gros mailing à tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on fait de l'auto-like et comme ça, ça marche pas du tout. Je l'ai constaté. J'utilise un petit peu. Enfin, moi, je suis plutôt orienté B2B, donc ça m'intéresse pas trop Instagram. Je me suis amusé un petit peu à faire quelques tests et il y a eu quelques retours, mais c'était pas génial ici.
Valérie, je te vois hocher de la tête. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, effectivement, le
l'automatisation sur Instagram, en fait, le problème que vous avez quand vous ne travaillez pas de manière qualitative, en tout cas le risque que vous avez quand vous ne travaillez pas de manière qualitative votre compte Instagram, c'est qu'ensuite vous n'ayez pas les bons abonnés en fait. Et si vous avez des abonnés qui ne sont pas engagés en fait, par rapport aux publications, elles ne vont plus apparaître dans le fil d'actualité de Instagram. Donc les algorithmes l'ont bien compris maintenant, et en fait il y a un certain nombre de contrôles pour que les gens qui s'amusent à faire ça, ça fonctionne plus pour eux. C'est ce vers quoi tu allais.
Il faut automatiser avec intelligence.
C'est pour ça que des fois, moi je préfère le faire de manière humaine. Avec un assistant offshore, ça coûte à peu près 5 à 10 euros de l'heure pour des tâches très simples. Mais bon, c'est pas hyper qualitatif, mais ça permet de remplacer un petit peu le robot, puis surtout, c'est de mettre de l'émotion, d'essayer de mettre de la valeur, et on va pas se spammer comme ça.
Y a-t-il d'autres questions ?
Sur les médias sociaux visuels, où on en est sur le niveau de qualité visuelle requis, je peux dire, pour une entreprise ? Est-ce qu'on doit être sur un niveau de qualité visuelle vraiment hyper pro, ou est-ce qu'on reste dans la mouvance de qualité
Alors, celui sur lequel on va avoir le plus d'exigence, c'est Instagram. Après, concrètement, dans le livre, j'ai interviewé des céramistes, par exemple. Qui travaillent, j'adore la céramique, il y a une explication, mais concrètement, qui travaillent dans leur studio céramique, il y en a une qui est installée à Nancy, elle est toute seule dans son studio, elle fait tout avec son iPhone, mais globalement, elle compense le manque de qualité académique de ses photos par un intérêt réel de la photo, en fait. Donc concrètement, quand vous êtes une petite boîte, vous pouvez quand même vous en sortir en racontant, en mettant vos tripes. En racontant des choses à travers vos visuels, il faut que le visuel reste intéressant. Donc à aucun moment, les photos ne racontaient pas une histoire, elle peut s'en sortir comme ça. Évidemment, quand je suis une grosse boîte dans le domaine du luxe, là, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. Donc Instagram reste quand même celui sur lequel il y a le plus d'exigences. À l'opposé, Snapchat, c'est celui sur lequel c'est l'intérêt de l'histoire qui va primer. Et on peut avoir des visuels qui sont assez bâclés, en fait, d'une certaine manière. Mais si on fait trois gribouillis avec une histoire et deux smileys, mais il y a une story qui est intéressante, qui est ludique, qui est drôle, on va s'en sortir. Donc le point important, en fait, c'est de bien connaître les codes visuels de chacun des outils, en fait. Pinterest, on est sur de la curation. Donc de toute façon, quand vous voulez travailler Pinterest, ce qui va être important, c'est d'être sur la photo verticale, en fait, la photo en mode portrait. Et que sur mon site, alors il y a des tactiques autour de ça. Si j'ai un blog et que Pinterest soit une source de trafic entrant, il faut que je prépare des photos à la verticale sur mon blog, voire une photo qui reprenne le titre de mon article, et plutôt travailler le titre de l'article de manière qu'il soit appétissant. Donc trois astuces pour, ce sera toujours plus appétissant que le social selling m'a dit mon œuvre. Voilà. Donc il faut bien connaître les codes de chacun des médias, en fait. C'est surtout ça qui va être important.
Philippe, tu voudrais rajouter quelque chose, ou Stéphane ?
Bon, allez, je vais poser une question à Frédéric. La différence, qu'est-ce que tu fais comme différence entre l'inbound marketing et le growth hacking ?
En fait, l'inbound marketing, c'est pour générer forcément des contenus entrants. Sauf que le growth hacking s'intéresse à l'intégralité du tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, le growth hacking s'intéresse dès le départ au product market fit, c'est-à-dire qu'on doit vérifier que le produit est bien en phase avec son marché. Donc déjà, il y a une première chose, on est en amont encore de l'inbound marketing. Puis après, on est aussi en aval, puisqu'en fait, tu vas faire tout ce qui est recommandation, parrainage, gamification, chose que tu n'as pas forcément dans les bandes marketing. Et puis après, en fait, dans le growth hacking, tu es également dans l'optimisation du revenu. C'est la fin, en fait, du tunnel. C'est-à-dire que tu vas essayer de faire en sorte de pouvoir générer plus de chiffre d'affaires avec un volume exact. C'est-à-dire que tu vas faire des offres premium, tu vas faire un système d'abonnement, tu vas essayer de facturer un peu plus à la conso, etc., etc. Donc, en fait, l'inbound marketing, tu génères du trafic, du prospect ciblé, tandis que le growth hacking, c'est va prendre ça, oui, mais il va prendre aussi avant et après. C'est un peu différent. En fait, c'est le growth hacking est vraiment fait pour les petites entreprises qui se disent, ok, j'ai pas de moyens, j'ai pas de budget, mais il faut que j'ai peu de moyens, j'ai peu de budget, j'ai peu de temps, et donc je dois vraiment prioriser mes affaires sur ce qui est super important. Et donc c'est, entre guillemets, les fondamentaux pour réussir. Et dès qu'après tu as fait ça, ben, tu passes à du marketing un peu plus traditionnel.
Okay. Merci. J'ai une question pour Valérie, entre autres. Je voulais savoir si tu crois qu'il y avait encore de la place pour de nouveaux acteurs en réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, on a des grands acteurs. Est-ce qu'éventuellement, un petit nouveau pourrait arriver du jour au lendemain, ou pas, à ton avis?
Un petit nouveau va essayer d'arriver du jour au lendemain. En fait, chaque année, il y a le dernier nouveau. Enfin, on vient d'entendre parler de Véro. Avant, il y a eu Pile. Enfin, il y en a eu plein, en fait, qui se succèdent. Medium aussi, mais avec des ambitions à la limite différentes. Mais concrètement, chaque année, on va avoir le besoin d'émerger. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est que Facebook est tellement puissant et riche qu'ils ont la capacité de tuer dans l'œuf tout réseau innovant, en fait. Donc, et Snapchat l'apprend à ses dépens. Concrètement, Snapchat qui émergeait, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? C'est qu'Instagram, en fait, a copié, Instagram qui appartient à Facebook, a copié un certain nombre de features, de fonctionnalités phares, en fait, de Snapchat. J'ai pas de boule de cristal, hein, mais on sait qu'il y en aura, il y aura des nouveaux, en fait, qui vont arriver, mais ça va être compliqué de se faire une place.
Les médias sociaux asiatiques.
Déjà,
tu as dans le messaging, en fait, t'as vraiment aussi une place, toi, tout ce qui est Facebook a essayé un petit peu de réagir avec Messenger, mais quand même WhatsApp, même ma femme et ses amis, ils ont un groupe WhatsApp avec les copines voisines. C'est un truc de fou, quoi, ils ont quand même réussi à concurrencer Facebook. Ouais. Mais donc il y a ouais, des asiatiques, etc. Donc toi, il y a toujours un. Je pense qu'il y a un truc, toi, le podcast aussi, tu vois, ça remonte un petit peu maintenant. C'est un truc un peu plus différent parce que les gens sont dans les transports. Donc je pense qu'il y a toujours une possibilité, mais c'est vrai que les gros leaders ont peut-être une telle part de marché. C'est un peu compliqué.
Et puis les gros leaders aussi, ils évoluent. Facebook on dit qu'il va devenir 100% vidéo, je crois, bientôt. C'était un objectif qui s'était presque fixé. Et je crois que s'il va y avoir la place pour des nouveaux entrants, il va falloir qu'ils se battent contre ceux qui sont déjà bien là, quoi. Ouais. Et donc la vidéo, c'est probablement le prochain média. Enfin, c'est le média, c'est le contenu qu'il faut absolument travailler. Frédéric parlait tout à l'heure de LinkedIn avec les vidéos qui revenaient sur les pages entreprises. Et puis, on l'a rappelé tout à l'heure, le trafic aujourd'hui sur le web, c'est la vidéo qui tire la croissance.
Effectivement, via Facebook, par exemple, comment vous voyez arriver ce mouvement-là? Ça a l'air de prendre. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre de l'ampleur, avec les problèmes qu'a Facebook en ce moment?
Je pense que Facebook a pris la mesure du problème, en fait. Je pense que ce n'est pas la solution. Ça, on va l'avoir. Après, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est que ça fait des années qu'on espère que Facebook vacille. Ça fait des années que régulièrement, on a des articles disant « c'est la fin de Facebook, les jeunes ne vont plus sur Facebook, etc. etc. » Et Facebook se maintient, il continue à se développer. En fait. Donc, il faut raison garder, et ils offrent tellement de valeur. On a beau leur reprocher tout ce qu'on veut, ils offrent tellement de valeur en contrepartie de ce qu'ils nous prennent, et ils sont en relation réactive quand même. Là, ils ont pris la mesure de ce qui se passait. C'est pour ça qu'il faut être prudent sur ces mouvements, en fait. C'est un peu comme les gens qui disent « je vais boycotter telle entreprise et j'arrête d'acheter ces produits ». Et en fait, on voit que dans le panier de la ménagère, on continue à voir les produits, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus ça qui se passe. L'histoire nous dira, hein, mais j'avais oublié que Facebook, qui a bien compris à un moment qu'ils n'étaient pas très forts sur mobile, ils ont fait l'acquisition d'Instagram, de WhatsApp. Donc ils ont une capacité même d'acquisition financière qui est absolument énorme.
Oui, malgré leur taille, ils sont restés aussi très très agiles. Et quand on parle de gross hacking, c'est aussi des acteurs comme Facebook qui savent utiliser ce genre de technique et pour justement se renouveler constamment. Donc la fin de Facebook, c'est pas pour demain, je pense. Probablement la fin de Facebook telle qu'on le connaît aujourd'hui.
Et l'incidence des chatbots sur la partie sur les réseaux sociaux, mais sur la partie vente aussi.
Mais c'est toujours pareil, hein. Moi je reviens à ma dimension de valeur, de quand on donne du sens, c'est tout à fait pertinent. Quand il n'y a pas véritablement de valeur derrière, c'est encore un outil qui fera un flop nécessairement parce que les gens ne l'utiliseront pas ou trouveront ça déceptif. Donc toujours penser à cette valeur. Qu'est-ce qu'on peut finalement à travers tous ces outils-là, qui peuvent être absolument fantastiques, mais finalement quelle est la valeur qu'on va distribuer, ça c'est l'outil. Hein, donc ça c'est absolument essentiel. On parlait d'automatisation tout à l'heure. Je vois beaucoup de mes clients qui passent à des solutions de marketing automation en pensant qu'elles vont faire mieux qu'avant, mais elles ne font que accélérer ce qu'elles faisaient mal par le passé. Hein, donc c'est vrai que construire une campagne email marketing, c'est quand même ça demande un peu de temps, un peu d'effort. Quand on ne l'a pas automatisé, on est capable d'en faire une, deux, trois par semaine au maximum. Quand on l'automatise, on peut en faire 10, 20, 30 par semaine. Le problème, c'est que si c'était intrusif par le passé et qu'on ne change pas ses habitudes, on ne fait que multiplier l'intrusion et donc devenir encore plus intrusif et donc contre-performant par rapport aux attentes de ces cibles, de ces clients. Hein, donc là, encore une fois, c'est véritablement la valeur qu'on va orchestrer à travers ces outils qui importe. Et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, dans le growth hacking. Pour le coup, c'est vraiment la dimension qui m'intéresse, qu'on va retrouver de toutes les manières aussi dans l'inbound marketing et plus généralement dans le marketing digital, c'est la data. La data est vraiment un juge de paix. Vous pouvez effectivement imaginer, allez, je prends un exemple tout simple, qu'un article de blog est ultra intéressant, vous le publiez, vous voyez que vous n'avez pas d'audience dessus, qu'il n'est pas partagé, c'est qu'a priori, le sujet n'intéresse pas vos cibles. A contrario, un autre article qui va cartonner, ça va vous donner des indications très précises sur les centres d'intérêt de vos cibles. Hein, donc la data est absolument essentielle pour orchestrer toutes vos activités sur le digital et puis arriver justement à évaluer si la valeur que vous pensez promulguer à travers ces canaux est effectivement au rendez-vous ou pas.
Et au niveau de l'analyse de la data, par exemple, je vais te demander, si ton client voit que les chiffres sont pas bons, est-ce qu'il peut me dire, en fait, c'est pas le sujet qui est intéressant, mais c'est toi qui as mal fait ton boulot?
Ah, bien sûr, il peut tout à fait le penser aussi. Alors après, ça va pas être un sujet sur lequel on va devoir se battre, mais je pense que si le marketing peut faire tout ce qu'il veut, si le produit est pas bon, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que le travail qu'on mène, nous tous les quatre, et en ce qui me concerne, c'est vraiment d'adresser les meilleurs messages aux meilleures cibles. Alors, on fait tout ce travail en amont, de savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on a besoin, et si l'entreprise par laquelle que j'accompagne, si elle n'est pas en mesure de proposer une proposition de valeur en réponse à ces besoins-là, on peut mener toutes les actions marketing qu'on veut, derrière, ça ne marchera pas, et les chiffres ne seront pas bons. Ouais. Donc l'analyse de la data, c'est indispensable, mais finalement, tout à l'heure, Frédéric donnait des chiffres sur des actions marketing qu'il avait menées avec un outil growth hacking. Ça dépend si tu cherches du volume ou de la qualité. Moi, je travaille avec une entreprise actuellement qui, lui, est persuadé que parfois, si on envoie des emailing en masse, ça permettra de toucher une ou deux personnes. Et finalement, c'est ce qu'il pense être juste parfois, parce que c'est dans une l'optique héroïste, et qu'on a décidé de toucher au moins un client, ça peut s'entendre, mais moi j'aurais une vision des choses, et je préfère plutôt moi adresser moins de messages, mais cibler aux personnes qui ça intéresse. Et c'est là que peut y avoir une incompréhension entre nos deux métiers, entre nous les marketeurs qui cherchons à optimiser les résultats, dont la data, et parfois les entreprises clientes qui ont des objectifs de rentabilité qui sont différents de ce que je poursuis moi parfois sur les équipes menées.
Il y a un très bon moyen de démarrer finalement, c'est de s'intéresser à la
satisfaction client plus qu'à la vente. Hein, donc aujourd'hui, il faut finalement réfléchir à comment je peux satisfaire mon audience, sans parler même de client, hein, c'est vraiment mon audience, et après coup, de toutes les manières, forcément, on aura des ventes. Hein. Là aussi, c'est une dimension du growth hacking qui est assez intéressante, c'est comment on va travailler tout ce qui est advocacy finalement. Mais un client qui est content, vous allez pouvoir actionner plus ou moins facilement finalement cette fameuse advocacy. Un client qui est mal content, alors là, ça va le faire effectivement très spontanément, mais ça sera très contre-productif. Donc réfléchir finalement à l'usage, se dire qu'un client est avant tout un usager, et finalement se dire qu'est-ce qui pourrait satisfaire mes cibles avant de m'intéresser à elles comme des clients potentiels. Ça, c'est absolument important, essentiel. Un très bon exemple, c'est, je crois que c'est Bonne Gueule, c'est un blog, Bonne Gueule, Belle Gueule, chaque fois je confonds, Bonne Gueule. Ouais. Donc c'est deux petits jeunes, passionnés par les fringues, ils ont commencé à bloguer autour de leur passion. C'est aujourd'hui une boîte, ce qui fait, je crois, plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Et ils sont une petite trentaine, et plus d'un tiers de l'équipe et produit du contenu. Donc voilà, en démarrant tout simplement par une passion, en orchestrant justement cette fameuse valeur ajoutée, puisqu'ils ont accompagné leur audience à mieux se fringuer, ils ont su en monter un business. Hein, donc on voit bien que là, ils sont partis de la satisfaction d'une audience pour finalement créer du chiffre d'affaires.
Je voulais vous proposer, si vous le voulez, puisque c'est offert par nos chers acolytes ici présents, de passer un petit apéro qu'ils vous offrent. Et puis, dans tous les cas, on peut continuer cette discussion à l'apéro. Donc, autour de l'apéro qui sera apéro soft, et je tiens d'ores et déjà à vous dire que les verres sont prêts, mais du coup, si pour vos boissons, vous pouvez vous servir directement dans le frigo. C'est plus cool, c'est plus ça. Et pardon, effectivement, il y a une séance de dédicace qui est organisée à la cool, parce que et une séance de... Non mais à la cool, dans le sens, comme j'ai précisé, c'est dans ce sens-là, vous êtes à l'aise. Des livres qui sont, justement, dont ils vous ont parlé à l'instant même. Donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, c'est juste ici. Et à pouvoir continuer la discussion avec nos auteurs ici présents. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. J'espère vous revoir à Nextdoor. N'hésitez pas à aller sur nextdoor.fr. Pour ceux qui sont, donc là je vois monsieur, je ne sais pas pour les deux dames ici présentes, pour ceux qui sont en tout cas à la Tour Cœur Défense, ou à la Défense en général, on a une application mobile qu'on a créée qui s'appelle CœurNet, où il y a tous les événements de Cœur Défense dedans. Voilà. Donc n'hésitez pas, puis les livres sont à la main. Merci à tous.
Merci.
Merci, bravo. Merci.